Ma question, au fond, est d'abord celle de l'esthétique, avant d'être celle de la représentation, mais je vais essayer de montrer comment cette question de l'esthétique s'articule autour des enjeux contemporains, enjeux qui sont à la fois artistiques et politiques, de la représentation. Ces recherches portent sur les rapports entre l'art et le capitalisme tardif, que j'essaierai de définir brièvement avec Jameson un petit peu plus loin. Et ceci à partir d'une analyse critique de ce que j'appelle le paradigme sociologique de l'art. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis la fin des années 1960, de nombreux sociologues ont en effet défendu l'idée selon laquelle l'art moderne et à sa suite l'art contemporain, un art qui s'est souvent défini en opposition avec le capitalisme, aurait été, par une ruse de la raison, au principe d'une refondation, d'un renouvellement du capitalisme tardif, qu'on appelle parfois néo-capitalisme, ou une refondation, pardon, du capitalisme, qu'on appelle parfois néo-capitalisme ou capitalisme tardif. Parmi les différents critères qui sont alors avancés à l'appui de cette thèse figure au premier chef celui de l'esthétique. Selon la formule de Gilles Lipovetsky et Jean Serrois dans un ouvrage relativement récent qui date de 2013 intitulé L'esthétisation du monde, le capitalisme contemporain serait, disent-ils, un capitalisme artiste qui reposerait essentiellement sur les ressorts de l'affectivité, de l'expressivité, en un mot, sur les ressorts de l'expérience esthétique. Ces auteurs mettent en avant évidemment, l'exemple du design commercial, du marketing, de la publicité, et plus généralement de l'importance acquise par les ressorts de l'apparence sensible dans les produits et les pratiques de consommation. On peut ici penser aux analyses pionnières de Baudrillard dans le système des objets et la société de consommation qui datent respectivement de 1968 et 1970. Le paradigme sociologique de l'art rejoint, malgré une différence de périodisation que je ne développerai pas ici, les analyses du philosophe américain Frederick Jameson dans le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, ouvrage de 1991, qui a été publié aux États-Unis en 1991. J'y ferai référence un petit peu plus loin. Dans cet ouvrage, Jameson envisage le postmodernisme non pas comme l'indicateur de transformations sectorielles accomplies dans les domaines de l'esthétique et de l'épistémologie, comme ça a été le cas par le passé, chez certains architectes et chez certains philosophes, dont Jean-François Lyotard, que j'évoquerai un petit peu plus loin, mais comme l'écrit un auteur qui s'appelle Perry Anderson, qui a fait une analyse de ce concept de postmodernité, comme je cite, une nouvelle étape dans l'histoire du monde de production dominant, étape caractérisée par une fusion entre les sphères de la culture et de l'économie, qui marque l'entrée des sociétés occidentales, à commencer par les États-Unis, dans une nouvelle phase du capitalisme. Un capitalisme tardif, donc, dont le concept, inspiré par la thèse d'Ernst Mandl sur l'avènement d'un troisième âge du capitalisme, intègre aussi des notions devenues assez courantes, comme celle de société de consommation, de société du spectacle ou encore de société post-industrielle, notions qui ont pour dénominateur commun de pointer l'importance acquise par les outils de communication de masse dans la production marchande. Tandis que le système de production capitaliste aurait désormais adopté le langage de la culture en exploitant les ressources de l'expressivité symbolique, l'art se verrait pour sa part adopter le langage de la marchandise. Le livre de Jameson a ainsi pour ambition de décrire l'émergence, dont il situe l'apogée au tournant des années 1970, d'une esthétique nouvelle qui traverse tous les champs disciplinaires, peinture, installation, vidéo, cinéma, littérature, etc., et qui s'illustre par son inclination à assimiler les codes d'un environnement commercial de part en part culturalisé. Mon projet de recherche ne consiste pas à étudier cette esthétique postmoderne, mais au contraire, je cherche à mettre en évidence le caractère inadéquat de cette lecture postmoderne au regard de nombreuses pratiques artistiques depuis les années 1960. On verra, je prendrai plus loin quelques exemples. Ces pratiques se signalent le plus souvent par un refus de soumettre l'art aux critères du jugement esthétique. C'est sans doute en rapport à cette seconde tendance, donc que je distingue du postmodernisme, qu'il faut rattacher le constat fait par certains des tenants actuels de ce que j'ai appelé le paradigme sociologique de l'art, d'une disparition de l'art à l'intérieur des lieux qui lui sont habituellement dévolus. Chez de nombreux auteurs, les œuvres sont alors décrites comme privées de qualité sensible, vides d'émotion, incapables de susciter le moindre sentiment esthétique, en un mot, désartialisées. On se retrouve alors devant ce paradoxe. D'un côté, la société serait soumise dans son ensemble au régime esthétique de l'art, tandis que de l'autre, l'art se serait évaporé, rendu à l'état de gaz, comme l'écrit Yves Michaud dans L'art à l'état gazeux, sous l'effet de sa désesthétisation. Ainsi, Lipovetsky et Serrois, que je citais tout à l'heure, commentant les analyses de Michaud, remarquent, je cite, que moins l'art contemporain vise le beau, plus le monde s'esthétise. S'il fallait voir là un ordre de consécution, il me semble qu'il serait plus juste de renverser les termes de cette proposition et de soutenir que plus le monde s'esthétise, moins l'art contemporain vise le beau. En effet, la désesthétisation de l'art semble davantage devoir être interprétée comme une conséquence de l'esthétisation du monde que l'esthétisation du monde comme une conséquence de la désesthétisation de l'art. Car s'il serait aventureux de supposer que le capitalisme tardif entre en contradiction avec la production artistique contemporaine, puisqu'il cherche bien souvent à s'en approprier les codes, tout nous invite au contraire à penser que la production artistique réagit, en l'occurrence, au contexte qui lui échoit. Le paradoxe que ces auteurs s'accordent à signaler, entre donc d'un côté la désesthétisation de l'art et l'esthétisation du monde, ne reste en définitive un paradoxe qu'autant qu'est maintenu le présupposé selon lequel l'art serait par essence voué à satisfaire des besoins esthétiques. Un tel présupposé, c'est ce que je vais essayer de démontrer, ignore la dynamique qui pousse ces franges les plus avancées à se transformer en fonction de son contexte social de réception. À ce sujet, on peut notamment considérer comme étant désormais dépassées les analyses défendues à la suite de Max Weber par les théoriciens de l'école de Francfort, qui associent l'autonomie de la sphère artistique à un phénomène de compensation face au pouvoir envahissant de la rationalité instrumentale. Évoquant le contexte historique dans lequel le modernisme est apparu, Habermas suggère ainsi dans Raison et Légitimité que, je cite, l'art bourgeois est devenu le refuge où peuvent se satisfaire, ne serait-ce que virtuellement, ces besoins qui sont devenus, pour ainsi dire, illégaux dans le processus matériel de la vie dans les sociétés bourgeoises. Parmi ces besoins, il évoque notamment, je cite, la nostalgie de l'expérience communicationnelle, qui échappe aux impératifs de la rationalité par rapport à une fin et qui laisse une place à l'imagination comme à la spontanéité du comportement. Habermas soutient lui-même que cette fonction compensatoire serait arrivée à son terme au prétexte que l'art aurait pris le parti de se couper du monde en cédant à l'ésotérisme ou, à l'exemple du surréalisme, de déborder dans la vie en renonçant à toute sublimation. Mais le problème qui se pose ici ne semble pas tant provenir, me semble-t-il, des orientations qu'on pourrait dire vitalistes ou formalistes de l'art, que des transformations de la société elle-même, lesquelles nous obligent à reconsidérer le rôle dérivatif que les œuvres pouvaient assumer précédemment. En effet, dans un capitalisme qui a rompu avec les impératifs de la raison instrumentale pour partir à l'assaut de nos affects, il semble possible de soutenir que, fût-ce sur un mode lui-même aliéné, les individus trouvent pour une large part à satisfaire ces besoins dans les expériences multiples que leur offrent l'industrie du tourisme, celle des loisirs et des communications, et même, comme je le disais, les marchandises les plus courantes qui, loin de répondre à des finalités pratiques, sont surtout le véhicule de contenus imaginaires, ce qu'on pourrait appeler des formes de vie réifiées. Dans ce contexte, on pourrait dire que les besoins compensatoires, en tout cas c'est une hypothèse que j'avance, se sont pour ainsi dire inversés. Celui qui s'affirme désormais avec le plus d'insistance est de mettre à distance les stimulations esthétiques entretenues par l'industrie marchande, ce qu'on appelle dans le langage courant se débrancher. Les recherches menées depuis quelques décennies sur l'économie de l'attention offrent un éclairage original sur cette question. Pour Yves Citon, qui a introduit ce champ de recherche en France au début des années 2000, ces recherches seraient nées d'un basculement d'une économie de la production vers une économie de la réception. Dans un marché devenu hautement concurrentiel, les entreprises redoublent d'efforts pour capter notre attention, au point que celle-ci est devenue une denrée rare, ce qui n'est pas sans entraîner parfois de graves problèmes de concentration, les fameuses TDA, troubles du déficit d'attention. Citon soutient ainsi que l'attention est en passe de devenir la forme hégémonique du capital. Si toutes les stratégies attentionnelles ne sont pas esthétiques au sens que nous a légué la pensée des Lumières, la plupart adoptent néanmoins des formes expressives, visuelles, sonores et même parfois olfactives, qui ont pour principale fonction de stimuler nos réflexes sensitifs et le plus souvent au détriment de nos facultés réflexives. Elles relèvent donc bien, en ce sens général, d'une esthésis. Le problème que pose l'usage de ce terme d'esthétique apparaît de manière tout à fait évidente quand Citon s'emploie à trouver des solutions pour lutter contre ce qu'il appelle les armes de distraction massive qui envahissent notre quotidien. L'esthétique est alors envisagée comme un mode de perception plus raffiné, plus réfléchi et plus expérimental que celui qu'appellent les signes et les images promus par les appareils de communication. La sphère artistique est ainsi décrite comme, je cite, un lieu de suspension des lois économiques cognitives, fin de la citation, par l'opportunité qu'elle offre de développer une attention qualitative sur des objets qui se distinguent par une plus grande complexité visuelle et interprétative. Un parallèle peut être ici fait avec les conclusions qu'Olivier Assouline tire de ses propres recherches dans un ouvrage intitulé « Le capitalisme esthétique ». Après avoir longuement insisté sur les connivences entre l'art et la production marchande, il finit par se corriger en admettant, je cite, que le marché n'est pas le lieu de production du goût, mais celui de la captation, de la formalisation et de l'exploitation des jouissances. Comparant la production industrielle à la production artistique, il reconnaît même qu'avec l'art, je cite, il s'agit de libérer des possibles, de s'affranchir des normes, alors que le redéploiement esthétique de la consommation ne mesure le possible qu'à sa réalisation effective. Bref, ces deux auteurs s'accordent pour distinguer une esthétique commerciale, qui ne demande pas de qualité réflexive particulière, mais surtout des réactions, d'une esthétique artistique qui en appelle pour sa part à une révision de nos schémas habituels de perception. Une telle distinction est bien évidemment importante, mais il n'en demeure pas moins que malgré cette différence, l'art ainsi compris se trouve encore participer d'une célébration du sensible, dont le système de production se fait désormais le principal agent. Si l'attention proprement esthétique ne doit pas être confondue avec celle que requiert la publicité et les produits courants de consommation, l'art reste néanmoins pris dans les raies d'une esthésis devenue envahissante et qui peut très bien elle-même s'offrir à des modes de perception plus exigeants. Rien n'empêche en effet de contempler une voiture, un vêtement de luxe ou même un simple caillou, comme l'évoque Nelson Goodman dans « Manière de faire des mondes », avec la finesse que demande une œuvre d'art. Autrement dit, la perception esthétique ne constitue pas en soi un critère suffisant de distinction avec les formes expressives dominantes à l'époque du capitalisme tardif. Ou pour reprendre une expression de Citon, elle ne représente plus une vacuole attentionnelle assez hermétique face aux assauts de la marchandise. Donc voilà, je défends l'hypothèse selon laquelle, plutôt que de s'en accommoder, l'art est entré à partir des années 1960, époque où le capitalisme entre précisément dans sa phase hégémonique, dans une nouvelle relation antagoniste avec le capitalisme, ceci en se dégageant de son rapport ancien à l'esthétique, devenu source de confusion avec les stratégies attentionnelles de la société de consommation. Il convient maintenant de se demander en quoi cette problématique concerne la question de la représentation qui nous réunit aujourd'hui. Bon, je m'appuierai sur une définition relativement simple de la représentation que j'emprunte à nouveau à Nelson Goodman dans Langage de l'art. Pour Goodman, la représentation est le fait pour une chose, qui devient en tant que telle un symbole, de renvoyer à autre chose. Autrement dit, la représentation se signale par son caractère dénotatif, ou je dirais transitif, même si ce n'est pas un terme que Goodman utilise. Parmi les divers modes de représentation, un certain mode, qui occupe traditionnellement une place importante dans les arts, et tout particulièrement dans les arts dits visuels, consiste à faire dépendre ce caractère dénotatif d'un rapport de ressemblance entre la chose représentante et la chose représentée. C'est ce qu'on appelle depuis l'Antiquité la mimésis. De ce point de vue, le modernisme, alors je n'aurai pas le temps de m'y étendre trop longtemps, mais c'est un point important parce que c'est par rapport à cette esthétique moderniste que l'esthétique ou l'anti-esthétique contemporaine va se définir. Le modernisme a globalement consisté à rompre avec le primat de la représentation mimétique au profit de la forme, ceci en isolant les propriétés matérielles du médium au détriment de ses propriétés dénotatives. Ce qui fait sens, ce sont la composition, les éléments matériels qui composent un tableau lorsqu'il s'agit de la peinture, et non plus ce que ce tableau nous raconte, ce qu'il dénote, une scène historique, un portrait, je ne sais quoi. En ce sens, l'œuvre moderniste est de nature intransitive. Elle ne renvoie pas à autre chose qu'à elle-même. En revanche, on va le voir, avec l'art contemporain, nous assistons à un retour de la dénotation, à ceci près que cette dénotation, et c'est le point important sur lequel je vais insister, à ceci près que cette dénotation n'est plus mimétique, ne se fonde plus sur un rapport de ressemblance avec ce qu'elle dénote, comme dans l'art prémoderne. Si l'œuvre renvoie bien à quelque chose d'autre, ce renvoi n'emprunte plus les voies de la mimésis. Je traduis ici en termes sémiologiques ce qui me semble être au cœur de la problématique de la désesthétisation de l'art, comme je vais essayer de le montrer. Alors, je voulais vous proposer un panorama, disons, assez large de l'art contemporain, mais le temps m'oblige à devoir me limiter à l'exemple de l'art conceptuel, qui est sans doute le plus caractéristique sur cet aspect-là des choses. Pour mener cette réflexion, je commencerai par évoquer la philosophie de l'art de Jean-François Lyotard, qui va nous mettre justement, on va le voir, sur le chemin de cette réflexion sur la question de la désesthétisation, de la dénotation dans le contexte politique contemporain. Et j'aborderai plus précisément la catégorie du sublime, qui est centrale dans les analyses que Lyotard consacre aux évolutions comparées de l'art et du capitalisme tardif. Malgré l'intérêt que cette théorie du sublime revêt par rapport à cette question de la représentation, comme on va le voir, j'en indiquerai aussi les limites au regard de la production artistique contemporaine. Parmi les nombreux champs d'investigation auxquels il se consacra, la réflexion sur l'art dans son rapport au développement du capitalisme tardif est l'un des axes importants de la pensée de Lyotard, qui poursuit ainsi la trajectoire initiée par les théoriciens de l'école de Francfort. Son approche a ceci d'intéressant que, loin d'en conclure à une annihilation ou une absorption de l'art par la technostructure industrielle, à la manière de Jameson que j'évoquais tout à l'heure, elle s'emploie au contraire à établir des critères de distinction, s'autorisant d'un parti pris axiologique qui fait la part, au sein de la sphère artistique, entre des œuvres qui se plient aux réquisites technostructurelles et celles qui s'en écartent en assumant l'exigence d'une autoréflexion. Pour saisir toutes les implications de cette théorie de l'art, il convient d'évoquer à nouveau le concept de postmodernité que Jean-François Lyotard introduit en France à la fin des années 1970, exactement en 1979, je crois, la condition postmoderne. Dans l'introduction de ce livre, La condition postmoderne, Lyotard rappelle que ce terme est déjà en usage sur le continent américain, dans les domaines de la sociologie et de la critique d'art. L'enjeu du livre est d'en déplacer le champ d'application vers celui du savoir, afin de désigner une crise de légitimité touchant les règles du discours philosophique, ou ce qu'il appelle, selon une formule désormais fameuse, les grands récits d'émancipation. Il ne s'agit pas pour lui de prendre acte de la fin du crédit accordé à tous les récits, mais bien d'une perte de confiance nouvelle dans ce qu'il appelle les méta-récits historiques, qui ont irrigué toute l'époque moderne, lesquels reposent, on pourrait dire aujourd'hui reposaient, sur l'idée d'une émancipation progressive de l'humanité rendue possible par les progrès de la raison. Les nombreux débats suscités par ce livre encouragèrent ensuite son auteur à revenir à plusieurs reprises sur certains des sujets qui y étaient abordés, mais aussi à élargir ses analyses à d'autres domaines. Ainsi, dans le postmoderne expliqué aux enfants, qui date de 1986, Lyotard s'emploie, entre autres, à définir sa position vis-à-vis de la production artistique des 19e et 20e siècles. Dans ce texte, le terme « postmoderne » désigne cette fois deux tendances artistiques très différentes et même, on va le voir à certains égards, antagonistes. D'un côté, ce terme sert à qualifier le mouvement architectural du même nom, l'architecture postmoderne, selon un usage plébiscité depuis les années 70 par certains architectes, mais aussi la trans-avant-garde et le néo-expressionnisme qui ont pour point commun de renoncer aux expérimentations qui avaient prévalu à l'époque moderne, ceci en faveur d'un éclectisme formel procédant par citation d'œuvres ou de styles passés. De l'autre, Lyotard fait de ce terme de postmoderne un usage plus personnel et plus polémique, qu'il associe à la notion d'avant-garde pour désigner cette fois non des mouvements artistiques qui entendent succéder au modernisme, comme ces mouvements postmodernes que j'évoquais tout à l'heure, mais une tendance du modernisme lui-même à interroger les présupposés de la modernité. En ce sens, la postmodernité n'est pas une ère nouvelle, selon Lyotard, mais ce qui travaille la modernité de l'intérieur, autrement dit encore, elle, je cite Lyotard, elle n'est pas le modernisme à sa fin, mais à l'état naissant. Le premier de ces emplois, que j'appellerais donc postmoderne 1, s'applique à des formes culturelles qui corroborent les thèses épistémologiques défendues dans la condition postmoderne, les courants artistiques qualifiés en ce sens de postmoderne ayant eux-mêmes renoncé à l'idée de progrès et à l'horizon d'universalité qui caractérisait le modernisme philosophique. Quant au second de ces emplois, donc, que j'appellerais postmoderne 2, sa signification est plus complexe. S'il désigne la dynamique même du modernisme artistique, en tant qu'elle procède d'un questionnement incessant sur ses moyens et sur ses fins, autrement dit d'une mise en crise constante de l'art, celle-ci entre elle-même en contradiction avec les présupposés du modernisme philosophique, faisant ainsi de postmoderne 2 à la fois un agent et un critique de la modernité. Cette distinction permet de mettre en évidence la différence qui sépare l'approche de Lyotard de celle de Jameson, que j'évoquais tout à l'heure, qui date donc pour sa part du début des années 1990. Tandis que dans le postmodernisme et la logique culturelle du capitalisme tardif, Jameson consacre l'intégralité de ses analyses à la première de ses occurrences, ce que j'ai appelé postmoderne 1, l'érigeant même au rang de parangon de la culture contemporaine en se détournant des formes artistiques qui entretiennent avec elle un rapport plus critique, Lyotard s'intéresse surtout à la seconde, ce que j'ai donc appelé postmoderne 2, s'intéresse donc surtout à la seconde, cherchant pour sa part à montrer comment l'art entre encore en résistance avec la culture de son époque. Si l'un fait de l'historicisme populiste du postmoderne 1 un critère de rupture avec le modernisme, l'autre, tout en reconnaissant l'importance, donc Lyotard, en reconnaissant l'importance acquise par cette tendance, la situe néanmoins en marge de l'art contemporain et s'emploie au contraire à souligner les traits de continuité d'une modernité réflexive associée donc à postmoderne 2. Pour autant, Lyotard ne manque pas de prendre en considération les mutations sociales survenues depuis l'époque moderne dans les sphères de la production et de la consommation, et notamment le phénomène d'esthétisation marchande qui intéresse aussi bien Jameson que les tenants du paradigme sociologique de l'art dont j'évoquais certains tout à l'heure. Dans Moralité postmoderne, il décrit ainsi ce phénomène qu'il associe à une série de notions souvent utilisées dans les critiques de la société contemporaine, mise en scène, spectacularisation, médiatisation, simulation, etc., etc., comme, je cite, « la perte d'objets et la prévalence de l'imaginaire sur le réel ». L'importance acquise par l'esthétique témoigne, selon Lyotard, d'une nouvelle actualisation du nihilisme occidental qui, dans l'ivresse de la consommation, contemple avec mélancolie les ruines de ses idéaux. L'art se trouve alors exposé au risque d'une perte de spécificité disciplinaire, dont témoigne précisément le postmoderne 1, en tant qu'il fait le choix de se soumettre à ce que Lyotard nomme lui-même l'esthétique généralisée. Il en parle d'ailleurs aussi, mais je n'ai pas le temps de développer, à propos de la philosophie. Cela à la suite d'ailleurs d'Habermas, hein, dans le discours philosophique de la modernité, où il parle de l'esthétisation de la philosophie. Et je passe. S'il ne s'arrête pas à ce seul aspect de la culture contemporaine à la manière de Jameson, la question se pose donc de savoir sur quels critères plus précis Lyotard entend fonder l'opposition entre postmoderne 1 et postmoderne 2. Il y a deux critères principaux, je vais peut-être passer pour gagner un peu de temps sur le premier. Le second, c'est surtout le second qui nous intéresse. Le second de ces critères donc, apparaît dans les analyses qu'il consacre à la notion de sublime. À plusieurs reprises, Lyotard s'interroge sur les origines de l'esthétique, telle qu'elle s'est constituée au XVIIIe siècle autour du principe d'une communauté de goût. Chez Kant, notamment, et qui rompt avec le classicisme, autrement dit avec le postulat de critères objectifs capables de fonder un jugement universel en faveur de la beauté, le plaisir esthétique présuppose encore un horizon d'entente universel, un accord intersubjectif qui, s'il n'est qu'hypothétique, n'en constitue pas moins l'élément déterminant qui le distingue de l'agréable. Hein, je vous renvoie à la critique de la faculté de juger. En tant que telle, elle a pu prêter l'esthétique, selon Lyotard, pardon, l'esthétique en tant que champ de réflexion dévolu à l'expérience du beau, vise à stabiliser le goût autour de symboles identificatoires communs. En tant que telle, elle a pu prêter main forte à des régimes autoritaires qui ont cherché le consentement du peuple au moyen de symboles visibles, à l'exemple du réalisme socialiste et nazi. Mais l'esthétique technostructurelle du capitalisme tardif relève, selon Lyotard, d'un même principe de cohésion. Dans un article intitulé « De deux sortes d'abstractions », il décrit cette esthétique technostructurelle comme une stratégie culturelle, financière et industrielle qui a pour effet de créer au moyen des images une communauté de goût coupée de toute appartenance territoriale. Contre ce règne de l'esthétique mondialisée, il recourt donc à la catégorie kantienne du sublime qui ne repose pas quant à elle sur la perspective d'un accord universel qui ne relève pas d'une esthétique du goût et dont participent, selon lui, les recherches picturales menées par les avant-gardes artistiques des 19e et 20e siècles. Il soutient en effet que ces avant-gardes, et donc postmoderne 2, se sont donnés pour mission de présenter qu'il y a de l'imprésentable. Et là, on en vient à cette question de la représentation. Si, à la suite de Burke, Kant réserve la notion de sublime à des expériences à la fois de plaisir et de douleur éprouvées devant des objets ou des phénomènes naturels qui, par leur taille ou leur intensité, surpassent les limites physiques de l'échelle et de la perception humaine, Lyotard l'applique pour sa part à des artefacts, des peintures, qui conservent des proportions relativement modestes. Comme les pyramides, la voûte céleste, les ouragans, les œuvres d'avant-garde relèveraient du sublime en tant qu'elles consisteraient elles-mêmes en une représentation négative selon une expression empruntée à Kant. De même que, pour Kant, le sentiment du sublime procède de l'échec de l'imagination à se représenter un objet dans sa totalité, tout en conservant néanmoins, tout en conférant, pardon, à l'esprit la possibilité de concevoir l'idée de la totalité de cet objet, et donc l'idée d'une totalité extrasensible. Pour Lyotard, l'œuvre d'avant-garde s'illustre par son refus de soumettre les idées de la raison à des images et à des symboles. Alors, il est moins ici question de discuter cette interprétation de la théorie kantienne du sublime que de mettre en évidence le rôle que joue ce paradigme dans le débat que Lyotard mène sur les ressorts de la culture contemporaine. Tout d'abord, le caractère négatif des œuvres d'avant-garde entre, selon lui, en opposition avec les courants post-avant-gardistes. Il affirme à ce sujet que l'éclectisme du postmoderne 1 consiste, je cite, à aligner la recherche picturale sur l'état de fait de la culture et à déresponsabiliser les artistes par rapport à la question de l'irreprésentable. Mais ce caractère négatif est aussi opposé à l'esthétique marchande, mass-médiatique et cybernétique, qui relève à l'inverse d'une célébration du plein et de la présence. Là où le sublime pictural soustrait par le sensible lui-même, en plaçant l'observateur devant l'aberrance d'un manque de représentation, cette esthétique technostructurelle n'a au contraire de cesse de remplir ses attentes par un surplus de représentation. On peut donc voir dans la théorie du sublime telle qu'elle est ici appliquée aux avant-gardes artistiques par Lyotard un puissant critère de résistance de l'art à l'esthétisation du monde. La question se pose toutefois de la pertinence de cette théorie à l'aune de la production artistique moderne et contemporaine. Sur quelle référence Lyotard entend-il fonder cette analyse? On peut ici se rapporter à un article intitulé « Le sublime et l'avant-garde », où les exemples dans le domaine des arts plastiques vont du milieu du 19e siècle au milieu du 20e, au milieu du 20e siècle. Les œuvres de Manet et de Cézanne, qui se détournèrent des règles picturales héritées du Quattrocento par la prise en compte distinctive de la substance colorée, et non plus comme moyen de représentation, sont aussi désignées comme annonciatrices de cette esthétique du sublime. La recherche de ces artistes est alors décrite comme une ascèse intérieure, ayant pour effet de dépouiller, je cite, « le champ perceptif et mental des préjugés inscrits dans la vision elle-même ». En d'autres termes, l'art d'avant-garde aurait eu pour enjeu de soustraire la peinture au devoir de visibilité, au sens d'une mise en conformité de la surface sensible avec l'apparence des choses. Ceci en portant son attention sur les conditions du voir et en quittant le domaine de la représentation en faveur des éléments picturaux qui la composent, que j'essayais d'expliquer rapidement en introduction. Manet et Cézanne servent donc de modèle à une tendance beaucoup plus générale de l'art moderne à se détourner des critères établis de représentation, dont Lyotard suit les prolongements dans l'abstraction picturale du début du XXe siècle, selon une interprétation génétique qui fut déjà mise en œuvre par Greenberg, que Lyotard cite au passage. Toutefois, tandis que Clément Greenberg, le critique d'art américain théoricien du modernisme, faisait reposer le modernisme sur un principe qu'il faut bien pour sa part qualifier de visibilité, la peinture moderne consistant selon lui à rompre avec l'illusionnisme afin de mettre en évidence les propriétés constitutives du médium pictural, Lyotard fait au contraire de cette rupture le ressort d'un basculement vers l'invisible. En effet, les œuvres modernes, par la prise en compte des constituants élémentaires ou originaires, là je cite Lyotard, de l'art de peindre, ne se contenteraient pas de nous placer devant un défaut de représentation, elles nous inciteraient plutôt à nous mettre en quête d'une réalité absente et inimaginable, à la manière de l'expérience du sublime donc. Une fois l'image supprimée, le spectateur se retrouverait confronté à un pur « il arrive » qui ne pourrait être mis en corrélation avec aucune autre image. C'est à cette expectative, à cette suspension, qui est en même temps une promesse menaçante, que Lyotard attribue le caractère sublime de l'art moderne. À la différence de Greenberg, cet art conserve donc bien pour lui une dimension dénotative et transitive, mais cette dénotation ou cette transitivité est sans objet, ou plus exactement, sans coordonnées perceptibles ni imaginables. On pourrait dire qu'il y a bien représentation dans le sublime, avant-gardiste chez Lyotard, mais que l'objet de la représentation n'est pas perceptible. Abstraction faite de cette question de la transitivité sans objet qui peut à l'évidence prêter à controverse au regard de la plupart des œuvres concernées, on remarquera que, englobante, la théorie moderniste du sublime laisse néanmoins passer entre ses filets nombre d'autres œuvres tout aussi importantes qui ne peuvent à coup sûr être associées à un tel paradigme. Comme Lyotard le reconnaît lui-même, l'œuvre de Marcel Duchamp, qu'il connaît bien, il a consacré un livre à Duchamp qui s'appelle Les Transformateurs du Champ. L'œuvre de Duchamp n'est aucunement assimilable à cette expérience du sublime. Mais Duchamp, qui est sans doute l'artiste de la première moitié du XXe siècle qui a eu le plus d'influence sur les artistes de la génération suivante, n'est pas ici seul en cause. Dans les textes que Lyotard consacre à Buren ou à Kossuth, il n'est pas davantage fait question de ce thème il n'aborde pas davantage cette question du sublime. Il est alors intéressant de remarquer que si la référence à l'esthétique du sublime disparaît de ses analyses, la tension entre le visible et l'invisible qui en constitue l'armature conceptuelle reste toutefois au centre de ses interprétations. Donc, malgré ses limites, cette notion de sublime a toutefois le mérite de replacer la problématique de l'art dans le contexte techno-industriel du capitalisme tardif qui voit apparaître le triomphe de ce que Lyotard appelle l'esthétique généralisée. Par conséquent, tout en conservant la perspective critique adoptée par cet auteur, je vais chercher à montrer que le rapport entre le visible et l'invisible qui est au centre de ces analyses constitue l'un des traits dominants de ce qu'on appelle l'art contemporain, mais selon des modalités très différentes de celles qui prévalent dans les œuvres picturales que Lyotard étudie. Et donc, comme je le disais, je vais prendre l'exemple de l'art conceptuel. Alors, je commencerai avec une œuvre qui est là déjà devant vous, une œuvre qui s'appelle Inert Gas Series de Robert Barry. Donc, il y a plusieurs, c'est une série, il y en a plusieurs qui ont été faites. Robert Barry, BA2RY, artiste américain, en 1969. Robert Barry réalise une série d'actions en plusieurs lieux des États-Unis, lesquelles consistent à répandre dans l'atmosphère différents types de gaz, indolores et invisibles. Ces actions ne sont accessibles au public qu'au moyen d'une documentation, en l'occurrence des textes et des photographies de qualité très ordinaire. Là, on n'a pas les textes, on a juste l'image, mais l'image dans les publications et les expositions de l'artiste est toujours accompagnée de textes. Par exemple, Inert Gas Series Helium est évoquée par l'image, c'est celle qu'on a derrière nous, d'un territoire désertique, laissant apparaître en bas à gauche une bouteille de gaz et accompagnée d'une courte phrase que je cite: 2 mètres cubes d'hélium dispersés dans l'atmosphère le matin du 5 mars 1969. Avec ironie, le texte indique encore détail. Un détail d'autant plus ténu en effet que cette masse imperceptible de matière aura plutôt fait de quitter le périmètre terrestre pour conquérir des régions plus lointaines. Arrêtons-nous encore sur une autre œuvre de la série, Microcurie Radiation Installation, qui est plus radicale que la précédente par le caractère résolument muet de sa documentation. Celle-ci se compose donc de deux photographies, des vues de Central Park quasi désert, et de cette phrase: 4 capsules de barium 133 enterrées dans Central Park, New York, 2 lieues, durée 10 ans. Aucun indice dans ces images ne permet cette fois d'identifier la nature de l'œuvre en question. Seul l'autorise ce petit texte qui nous fournit par ailleurs la raison d'une telle absence en stipulant que les capsules radioactives, donc il a enfoui des capsules radioactives dans Central Park, ont été mises sous terre. Mais encore une fois, le document ne nous donne rien à en voir. Comme le montrent ces exemples, et ceux que je vais prendre par la suite, je vais essayer de définir un peu l'art conceptuel. Il me semble que l'art conceptuel peut se comprendre, de façon plus générale, comme un art qui vise à créer un écart et même une distorsion entre un objet, une action ou une expérience artistique et un élément représentationnel au moyen duquel cet objet, cette action ou cette expérience est signifiée. Une telle distorsion repose en l'occurrence sur une absence de congruence perceptive entre l'instance représentante et l'instance représentée, dans l'image qu'on a ici, entre la photographie et les capsules de radioactives qui est l'œuvre de Barry. Si l'objet, l'action ou l'expérience peuvent dans certains cas être en eux-mêmes pourvus de qualité esthétique, leur représentant textuel ou iconique en est pour sa part généralement dépourvu. Abstraction faite de précurseurs, encore une fois comme Duchamp ou Yves Klein, il semble possible d'associer la naissance de l'art conceptuel au nom de Stanley Braun. En 1960, Stanley Braun entreprend un travail qui a pour cadre et pour sujet la ville d'Amsterdam. Il arrête alors des passants en différents points de la métropole et leur demande de dessiner de mémoire le croquis d'un itinéraire vers un autre point. Ces croquis sont ensuite estampillés « This way Braun », on en a un ici, puis assemblés en fonction de leur zone géographique. Un même parcours entre un point A et un point B se trouve ainsi représenté à travers des traits, parfois des mots, mais surtout des itinéraires très différents. On en a encore un ici. Mettant à l'épreuve la multiplicité des représentations mentales, cette fois que les piétons se font de leur propre ville, ce travail n'est pas sans rapport avec les recherches développées à la même époque par l'urbaniste américain Kevin Lynch. Toutefois, l'enjeu n'est pas ici de proposer une analyse théorique sur l'expérience urbaine, mais partant des mêmes observations, d'engager une réflexion nouvelle sur les formes de l'art et la place de l'artiste dans leur production. Les This Way Braun ne sont pas des objets esthétiques. Braun refuse de les sélectionner en fonction de leur qualité expressive, chacune étant alors admise au titre de l'œuvre. Elle relève donc de ce qu'on pourrait nommer un schématisme qui, associant différentes représentations mentales de l'espace, a pour conséquence de mettre à l'écart la propre subjectivité de l'artiste. En effet, les dessins ne sont pas réalisés par Braun, mais par des inconnus, Braun se contentant d'en concevoir le projet en laissant à d'autres le soin de l'exécuter, ainsi que le généraliseront par la suite d'autres artistes minimalistes conceptuels, notamment les conceptualistes américains dans les années 60 et 70. Un tel schématisme se retrouve dans la série des Dead Paintings entreprise par Onkawara en 1966 et qu'il poursuivra jusqu'à la fin de sa vie. Bien que celles-ci relèvent pour leur part du genre de la peinture, elles rompent toutefois avec les attendus de la peinture. Les Dead Paintings sont en effet composés de lettres blanches qui se détachent d'un fond monochrome de couleurs variables sur des toiles de différents formats, n'offrant pour tout contenu visuel que la date de leur exécution. Ce caractère autodénotatif, en tant qu'il prend la forme d'une indication temporelle, appelle néanmoins un contenu empirique qui se trouve rigoureusement tenu à l'écart de la représentation. En effet, tout en renvoyant à des expériences vécu. Alors pour étayer ça, il faudrait que je vous montre d'autres œuvres de Onkawara, mais hélas, on n'a pas le temps. Ces signes ne disent rien des contenus empiriques et subjectifs de cette expérience. En fait, c'est la vie de l'artiste qui se représente au fil de son œuvre, mais l'œuvre ne dit rien de ce qui se passe réellement dans la vie de Onkawara. À nouveau, ces œuvres valent moins parce qu'elles donnent à voir que parce qu'elles dissimulent. En d'autres termes, ce n'est pas l'expérience perceptive qui en constitue le propos, mais sa suppression pure et simple. Une photographie de Richard Long. Ah, je ne l'ai pas, la Richard Long. Ça, c'est dommage, alors. Elle a pas dû être enregistrée. Bon, eh bien, écoutez, on va passer Richard Long, ce qui arrange mon chronomètre. On va passer à Hamish Fulton. Donc, qui est un artiste de la marche, comme Richard Long. C'est des artistes qui marchent et qui considèrent la marche comme pratique artistique. Long va souvent laisser des traces dans le paysage, photographier ces traces, c'est ce que je voulais vous montrer, une ligne faite en marchant. Et Fulton, lui, ne laisse pas de traces. Donc, il se distingue de Long par son refus de laisser des empreintes dans l'espace naturel. Et ses œuvres consistent en la documentation d'itinéraires réalisés à travers le monde. Parmi elles, les photographies de chemins accompagnées de courts textes qui en rappellent les coordonnées temporelles et géographiques, sont à ce titre caractéristiques. Chacune de ces images a pour fonction de restituer l'intégralité d'un parcours au moyen de segments de chemin, comme ici, on en a d'autres là, de chemin que l'artiste a arpenté, mais dont le sens se situe cette fois résolument hors du champ de la représentation. Les voies pédestres étant impossibles à représenter dans leur totalité, sinon par une vue aérienne inaccessible aux marcheurs, leur présence dans l'image photographique est le signe manifeste de la réalité fragmentaire de la photographie. Autrement dit, de même que la photographie fixe l'instant d'une durée, elle délimite une section d'espace dont ces tronçons de chemin révèlent avec force le caractère morcelé, l'image découpant le moment d'un itinéraire dont le prolongement reste hors de toute possibilité perceptive. Une béance visuelle renforcée par le fait que, dans la plupart des éditions et expositions de l'artiste, une seule image vaut pour la totalité d'un itinéraire. Ce que je veux dire par là, c'est que cette image dénote un chemin, mais en dénotant ce chemin, elle dénote tout un itinéraire. Et cet objet dénoté ne figure pas dans l'image. L'objet dénoté excède le cadre de la représentation. Dans ce cas, le visible cède donc clairement le pas à l'invisible. Pour comprendre le statut singulier de ces images, la présence du texte est à nouveau nécessaire. Elle pose des repères temporels qui invitent à les lire comme les moments d'un processus beaucoup plus long, les marches pouvant parfois se dérouler durant plusieurs semaines. Je propose donc pour finir de mettre en rapport cette question de la représentation sans objet, au fond qui est la question de l'art conceptuel, avec les caractéristiques du capitalisme tardif que j'évoquais en introduction. Alors tout d'abord, on peut mesurer, puisque je suis passé par Lyotard pour poser en quelque sorte ma problématique, on peut mesurer en quoi la théorie du sublime de Lyotard apparaît beaucoup trop restrictive, tout en posant néanmoins les termes par lesquels cet art peut être décrit. Si cet art conceptuel n'en appelle plus lui-même à un horizon d'entente universelle fondé sur une communauté de goût, hein, ce n'est pas le plaisir esthétique du spectateur qui est ici mobilisé, s'il met en échec l'imagination à se représenter une totalité phénoménale, ces signes perceptibles se trouvant renvoyés à des processus et des symboles souvent inobservables, la vie de Honkawara, les marches de Long et de Fulton, les œuvres invisibles de Robert Barry. S'il met souvent en échec l'imagination donc à se représenter une totalité phénoménale, ces signes perceptibles se trouvant renvoyés à des processus et des symboles souvent non observables, s'il requiert par conséquent une compréhension qui excède son seul plan interne de visibilité, cet invisible n'est pas réductible à l'irreprésentable d'une idée de la raison. Dans de nombreux cas, cette part occulte de l'art conceptuel renvoie à une réalité concrète, encore une fois la marche, la vie, des gaz qu'on répand dans l'atmosphère, mais cette réalité est située hors de l'image, de la forme plastique ou de l'espace d'exposition et soustraite en tant que telle au regard de l'observateur. On remarquera alors que si l'art moderne avait tendance à abolir la distinction entre le fond et la forme, en faisant de la forme le fond ou le contenu de l'œuvre, l'ensemble de ces œuvres repose au contraire sur une dissociation nouvelle du fond et de la forme. Si nous désignons du moins par forme ces traces que les artistes laissent de leurs actions. La nouveauté tient ici à la disparition du rôle prédominant que la mimésis assurait autrefois dans ce rapport. Dans l'art prémoderne, cette relation était en effet assurée par un lien supposé de ressemblance entre la matérialité de l'image et la réalité que cette image devait exprimer. Dans les cas précédents, lorsqu'une image se présente, celle-ci n'entretient aucun rapport mimétique avec son contenu, tout en étant souvent obtenue au moyen de cet outil mimétique par excellence que constitue la photographie. L'objet indiqué y est alors dissimulé lorsqu'il n'est pas tout simplement irreprésentable. On peut certes voir dans ce vide expressif une disparition de l'art lui-même, ce que, comme je l'ai dit, ne manque pas de faire certains observateurs. Mais force est de constater que, aussitôt quittés les discours hétérodoxes pour donc là en l'occurrence les discours sociologiques, pour se tourner vers les propos des spécialistes de la discipline, qu'ils soient historiens, critiques ou artistes, ces œuvres y sont alors souvent reconnues comme parmi les plus significatives de leur époque. Ce décalage témoigne de la discordance foncière qui subsiste aujourd'hui entre l'évolution du champ artistique depuis le tournant des années 1960 et les représentations que le public, même le plus cultivé, se fait de la réalité de l'art. J'ai rappelé en introduction l'importance acquise à cette époque par les ressorts de la subjectivité et de l'expressivité dans la production industrielle. On peut ainsi remarquer que si ces artistes renoncent à s'en faire eux-mêmes les pourvoyeurs, la critique qui s'obstine à voir dans l'art le ferment du capitalisme tardif s'exerce souvent elle-même au nom de critères qui en constituent l'un des traits distinctifs. Les déplorations à l'encontre de la désesthétisation de l'art restent en effet prisonnières d'un paradigme expressiviste et subjectiviste qui s'impose désormais à l'ensemble de la société. Il ne s'agit pas ici de soutenir que la subjectivité et l'expressivité sont les alliés naturels du système de production. Néanmoins, l'appel à un retour du sensible, que l'on retrouve chez les détracteurs de la désesthétisation de l'art, reprend lui-même à son compte les sommations de ce que Debord appelait la société du spectacle. L'un des principaux intérêts de l'art conceptuel aura pour sa part été de s'en dissocier de la manière la plus ferme. Juste pour finir, je voulais conclure avec Jonathan Crary. Si la question du voir est une question politique, comme le rappelle Jonathan Crary dans Technique de l'observateur, la révocation du visible dans le champ qui en constitue pourtant le lieu d'expérimentation par excellence n'est sans doute pas elle-même dépourvue, me semble-t-il, de sens politique. Pour cet auteur, donc Crary, l'invention de la chambre noire au XVIIe siècle, qui annonce celle du dispositif photographique au milieu du XIXe siècle, signe la conquête, je le cite, d'une métaphysique de l'intériorité, marquant la naissance du sujet moderne, envisagé comme un être autonome, retranché dans une sphère privée et coupé de l'espace public et du monde extérieur. Le caractère impersonnel et inexpressif de l'art conceptuel témoigne pour sa part d'un mode d'appréhension du réel qui a pour effet d'abolir ce subjectivisme optique désormais séculaire. Le signe ou l'image qui, dans l'usage que ces artistes font eux-mêmes de la photographie, tend à déjouer la fonction heuristique qui lui est socialement dévolue, a non seulement pour effet de les déloger de la place souveraine que la modernité leur avait assignée en tant que créateurs d'un monde visuel original, mais d'entraîner aussi une remise en cause du spectateur envisagé comme le destinataire autocentré de l'œuvre. Le travail de Onkawara est à ce titre tout à fait exemplaire. La disparition de l'artiste derrière les collections de dates, de chiffres et de mots amène celui qui les perçoit à relativiser la place qu'il occupe lui-même dans le temps pléthorique où s'inscrit toute existence humaine. Les œuvres conceptuelles engagent par conséquent un nouveau rapport entre l'art et le public, qui n'est plus le récepteur d'un phénomène visuel, mais par l'effort de reconstruction mentale qui lui est demandé, soit le créateur à part entière de l'œuvre, soit lui-même le véhicule d'une expérience, je n'ai pas trouvé de meilleur terme pour l'instant, qu'on pourrait qualifier de métasubjective. Si, au regard des analyses de Crary, cette éclipse du visible doit donc être rapportée à une histoire plus longue, on peut néanmoins supposer que le contexte productiviste et masse médiatique de l'époque en constitua l'un des principaux éléments déclencheurs. Merci.